selon Xavier Delaporte.
Bonjour Xavier, le verbe faire s'est doté récemment d'un nouveau sens selon vous?
Oui Guillaume, ou plutôt la récupération d'un vieux sens, mais à l'intérieur d'un champ qui lui est nouveau. Depuis quelques années est apparu un mouvement qu'on appelle les makers, du verbe to make, faire en anglais. Les makers, ce sont, pour le dire vite, des bricoleurs, mais des bricoleurs d'un nouveau type. D'abord parce que à des activités traditionnelles comme la métallurgie, la menuiserie ou la fabrication d'objets artisanaux, ils mêlent de nouvelles activités, l'informatique, la robotique ou ce qu'on appelle les imprimantes 3D. Vous savez, ce sont ces machines qui, sur le modèle de l'imprimante que l'on connaît, qui inscrit sur papier un texte qui provient d'un fichier informatique, et bien ces imprimantes 3D exécutent les commandes contenues dans un fichier informatique, mais pour fabriquer un objet en trois dimensions. Alors déjà, dans la matière dont ils bricolent, ces makers sont d'un type nouveau, mais ce qui les caractérise vraiment, c'est autre chose.
Et alors, par exemple, il voterait pour François Fillon, Xavier Delaporte?
Alors, c'est une bonne blague, vraiment, que vous avez trouvé tout seul ce matin, Guillaume, mais non. Ce qui les distingue, c'est la manière dont ils le font. Ils le font de manière collaborative, communautaire, sociale. Concrètement, ça veut dire qu'il faut un lieu. Alors, certains de ces lieux s'appellent des Fab Labs, mais ils peuvent avoir d'autres noms. Un lieu qui contienne des machines que parfois, d'ailleurs, ils construisent eux-mêmes. Ces machines, ce sont des ordinateurs, mais aussi des outils de découpe laser, etc. Et elles sont mises en commun. Les gens viennent et ils les utilisent pour des projets qui peuvent être individuels ou communs. Mais surtout, ces gens les mettent en commun leurs connaissances pour apprendre les uns des autres. Ceux qui connaissent la métallurgie ou la céramique vont travailler avec ceux qui savent programmer un ordinateur pour, par exemple, créer un prototype. Et les designers aussi vont de leur côté réfléchir à des formes.
Et alors ça donne quoi au final?
Et ben, pour l'instant ça donne essentiellement ça, c'est-à-dire des prototypes, des expérimentations, mais certains y voient le ferment d'une nouvelle révolution industrielle, c'est-à-dire la possibilité d'une production industrielle qui soit individualisée, communautarisée, décentralisée et qui réponde aux besoins les plus locaux. Et puis de fait on voit par exemple de plus en plus de prothèses qui sont fabriquées ainsi parce que ça revient moins cher et qu'on peut l'adapter au plus près de la personne. Mais c'est aussi un moyen de recycler, parce qu'on peut fabriquer une pièce pour réparer un objet existant, une pièce qu'on trouve pas dans le commerce ou alors qui vaut très cher, ou alors parce qu'on peut recycler la matière de certains objets obsolètes pour en fabriquer d'autres. Alors bon, ça c'est la théorie, parce que dans la pratique c'est compliqué. S'il y a 3 ou 4 ans on pensait vraiment que les makers allaient révolutionner l'industrie, on est un peu revenu en arrière, parce que par exemple c'est bien de se dire tiens, je vais garder mes bouteilles en plastique pour en faire des pinces à linge dans mon Fab Lab. Dans les faits, les plastiques sont pas tous les mêmes, certains sont inaptes à ce type de recyclage ou alors vraiment très coûteux, et puis ça nécessite quand même un très fort savoir-faire pour que ce soit vraiment rentable de pas aller acheter des pinces à linge à l'épicerie du coin. Mais les recherches avancent, les machines deviennent de plus en plus faciles à manipuler, le design des prototypes étant plus accessible sur internet, il est possible malgré tout que quelque chose, un mouvement un peu massif se produise et que ce type d'activité sorte du champ des geeks un peu. D'ailleurs, comme ce qui est arrivé avec l'informatique après tout, car quand il fallait, et c'était pas si loin dans les années 80, assembler soi-même son ordinateur et savoir coder pour l'utiliser, c'était une pratique de niche. Mais à mesure que les interfaces se sont simplifiées, l'informatique s'est démocratisée jusqu'à toucher les plus incapables d'entre nous. Et je ne parle pas seulement de vous.
Mais j'arrive très bien à transformer les pinces à linge en bouteilles de plastique.
C'est l'inverse.
Et réciproquement. Mmh. Et réciproquement. Et c'est là justement ma
supériorité.
Xavier, en tout cas, l'informatique entretiendrait un rapport particulier avec le fait.
Alors voilà, c'est perspicace parce que c'est mon hypothèse. Il me semble que l'informatique contemporaine a créé un rapport un peu nouveau entre le faire et le penser. Du fait du temps très restreint entre l'invention et sa diffusion à très grande échelle, du fait de l'incorporation de plus en plus profonde des effets de ces innovations, du fait de la manière dont elles reconfigurent des pans entiers de nos vies, les technologies contemporaines ont opéré une sorte de fusion entre le faire et le penser. En informatique aujourd'hui, penser c'est faire et faire c'est penser. Je m'explique. Il y a quelques semaines, avec mon copain Joseph Confavreux de Mediapart, on se demandait ce qu'était un penseur à l'heure du numérique. Oui, on a des conversations passionnantes. On en est arrivé à la conclusion suivante. À l'heure du numérique, il y a toujours des intellectuels qui produisent des concepts, mais ils ont été rejoints par des gens qui produisent des services informatiques. J'ai pas peur de le dire, Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook, est un penseur. En créant Facebook, il a mis en œuvre une idée des relations sociales. Toutes les fonctionnalités de Facebook, la manière dont l'algorithme trie les informations qu'il nous apporte en priorité, dont il choisit les gens que nous sommes censés connaître, comment il croit savoir ce qui va nous intéresser parmi ce que disent nos amis. Toutes les fonctionnalités de Facebook sont des concepts, mais des concepts mis en acte et avec lesquels nous vivons désormais. Quand Mark Zuckerberg s'exprime là-dessus, il est très clair, il peut tout justifier. Bien sûr, on peut considérer que ce sont des idées nulles. Bien sûr, on peut dire que Mark Zuckerberg crée une sorte de théorie des relations a posteriori pour justifier son modèle marchand. C'est pas faux. Il n'empêche qu'il participe à ce rapprochement entre le faire et le penser qui me semble être un trait fort de notre époque et de celle qui vient. Pensons à une chose, pensons aux voitures autonomes qu'on est en train de construire. elles porteront une idée du monde. Parce qu'au programme qui va commander votre voiture autonome, il va falloir faire régler en amont des dilemmes. Par exemple, le dilemme suivant. En cas d'accident inévitable, dois-je forcément protéger le conducteur? Ou alors, faut-il, pour sauver le conducteur, sacrifier un passant? Et si ce passant est vieux, est-ce que je sacrifie? Est-ce que si c'est un enfant, je sacrifie ou pas? Impossible de laisser faire le hasard, l'informatique ne connaît pas le hasard. Bref, nous sommes dans une situation bizarre où la programmation informatique va nous obliger à régler des questions morales que la philosophie se pose depuis des siècles. Et comme les philosophes ne comprennent rien à l'informatique, ce sont les informaticiens qui vont le faire. Ils ont déjà commencé, et c'est ça la puissance du faire en informatique, et on a intérêt à s'y intéresser très vite et de très très près.